Mesdames et messieurs, il paraît que j'ai toujours le rôle difficile de toucher aux vérités premières, celles qu'on oublie le plus facilement. La vérité fondamentale, la vérité première devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, est que l'homme, en pénétrant les mystères de la science atomique, je dis bien les mystères de la science atomique, par l'œil mathématique, a découvert le sens même de la matière. Il a découvert les bases mêmes de l'ordre universel. Et ces bases de l'ordre universel, Einstein nous l'avait déjà dit, sont une équivalence énergie-matière. L'énergie est à la base, est le principe, est le fondement de toute l'organisation de la matière, et à travers l'organisation de la matière aboutit finalement à être la base réelle, véritable, de l'organisation de la société, énergie. Ceci est d'autant plus vrai, ceci nous est d'autant plus évident après Hiroshima, que nous sommes mis, l'humanité a été mise depuis cette époque devant un jugement apocalyptique, un jugement de vie ou de mort. Elle doit choisir, ou bien à travers l'énergie atomique et l'énergie tout court, de créer le bien-être et d'organiser le bien-être de l'humanité, ou bien de se servir de cette énergie comme une arme pour la destruction, corps et bien, de l'humanité. Ceci n'est pas une vue de l'esprit. En 1947, quand David Lilienthal prenait la présidence de la commission atomique américaine, disait dans son discours d'ouverture, nous allons affronter, c'est mieux que je vous dise le texte exact, la nouvelle commission devra explorer des terres inconnues. Les conséquences de notre travail, pour le meilleur ou pour le pire, sont effarantes. 10 ans après, Francis Perrin à Genève, en clôturant la conférence atomique, 1958, disait, pour le meilleur ou pour le pire, l'humanité a uni sa destinée à celle de la science. À nous de tout faire pour écarter le pire et exalter le meilleur. Alternative donc, bien-être ou destruction. Soit facile. Bien-être. Et pourtant, non. Le jugement est si difficile que depuis des années et des années, les hommes d'État, les sociologues, tous s'affrontent sur ce jugement. Nous devons survivre, ou nous devons nous entretuer. C'est tragique, mais c'est ainsi. Or, après que pendant plusieurs années, à chaque controverse politique, économique ou sociale sur le plan international, on s'est heurté à ce dilemme de vie et de mort, à ce jugement de l'homme par l'homme, finalement, on est arrivé à constituer un tribunal suprême, qui est la conférence au sommet. Cette conférence au sommet, donc, a devant elle, en bonne logique, il doit aborder la cause de ce conflit pour en éliminer les effets. Il y a un antagonisme idéologique à la base. Il y aura donc une dispute de partisans au sommet. Ce serait du temps perdu. C'est la cause historique, actuelle, irréfutable, scientifique, inscrite dans la vie de la matière et dans toutes les transformations de celle-ci. C'est là, c'est cette irruption de l'énergie des agents physiques dans les relations humaines qu'il s'agit de considérer en tant que cause historique du conflit à résoudre. Jugement de vie et de mort, mais oui, ces juges ont plein pouvoir. Qu'on toutes les responsabilités doivent dire comment utiliser ensemble l'énergie pour le bien-être de l'humanité en excluant tout emploi de mort par un juste partage de ce bien-être que l'énergie peut apporter à tous, sans exception. Nous sommes à un aboutissement de la révolution de l'énergie qu'on a eu l'habitude généralement d'appeler la révolution de la production. C'est avec Watt, ça ne date que d'un siècle et demi, c'est avec Watt que la locomotive à vapeur transforme l'énergie cotonnière et métallurgique. Ce n'est que de 1830 la bouleversante conquête du rail avec la première ligne Manchester-Liverpool. Et tout de suite après, la navigation à vapeur. La révolution de l'énergie par la vapeur n'a pas encore conquis la Terre, que la révolution de l'électricité commence, avec Graham la première dynamo, la première ligne télégraphique traverse l'océan en 1869, et la même année, la révolution atomique trouve sa table de la loi avec Mendeleïev. L'énergie atomique, nous disions le 15 novembre 1947 au premier congrès international de l'économie coopérative, en commentant les déclarations de Lilienthal, nous disions le meilleur que préconise Lilienthal est représenté par une révolution énergétique incomparablement plus violente et plus rapide que la révolution électrique. Car celle-ci eut tout de même un âpre chemin technique à accomplir pour réaliser la production de l'énergie, la distribuer, la transformer en lumière, en travail, en marchandise, alors que l'énergie atomique trouve tout cela prêt et perfectionné. Les machines sont rodées et en ordre de marche. Elle n'a qu'à demander à la pile atomique de fournir une température suffisante à l'ébullition de l'eau des chaudières qui alimente les turbines génératrices d'électricité. Tout le reste est inchangé. À partir du 1er janvier 1947, la commission Lilienthal a pris le contrôle de 8 grandes usines atomiques qui sont la propriété du gouvernement des États-Unis et d'un grand nombre d'autres installations qui contribuent directement ou indirectement au développement de l'énergie atomique. Le temps des réalisations approche que prévoyait Paul Langevin lorsqu'il écrivait « La consommation actuelle totale de la France en énergie électrique peut être assurée pour une année par la transformation de moins de 10 tonnes d'uranium. » Nous ajouterons, la consommation totale en charbon de la France pour tous les usages thermiques, y compris la production d'électricité, est de 75 millions de tonnes par an, soit 75 000 trains de 1000 tonnes chacun. Ce potentiel thermique et énergétique peut être doublé et 150 000 trains de charbon remplacés par deux wagons d'uranium 235. Ces chiffres devraient se passer de commentaires. Il semble néanmoins que beaucoup de personnes se soient encore à s'interroger sur la portée plus ou moins actuelle de la fission de l'atome sur l'économie humaine. Comme si l'équivalent énergétique d'un kilo d'uranium avec 2950 tonnes de charbon ou avec 2000 tonnes de mazout n'était pas une réalité scientifique aux effets économiques imminents. Mais expliquons-nous, cette formidable puissance thermique va être utilisée aussi bien pour produire des marchandises que pour actionner les transports de terre, d'air et de mer. Elle ne peut manquer de produire un choc sur la production, mais ses effets les plus rapides et plus violents se feront sentir sur tout le système des transports. Justement, la révolution électrique avait épargné les transports. Les rendements d'attraction à vapeur, par exemple, sont restés... les rendements sont restés à peu près les mêmes qu'au début du siècle. Le rendement moyen de la meilleure locomotive à vapeur ne dépasse pas 9%, à savoir que des 100 kg de charbon mis à brûler à la grille, 9 kg seulement se retrouvent au crochet pour tirer les wagons. Si malgré ce lourd handicap, la locomotive à vapeur demeure la reine des grandes lignes en Amérique, c'est que le haut rendement de la locomotive électrique ne paie la production et le transport de l'énergie qu'en des conditions particulièrement favorables d'exploitation. Aussi les États-Unis, qui disposent du réseau de chemins le plus étendu et de la production d'énergie électrique la plus importante du monde, n'ont qu'un pourcentage des plus bas de lignes électrifiées. Le mieux effrayant de l'Oriental va donc paraître le jour où quelques tonnes d'uranium remplaceront les montagnes de charbon qui alimentent aussi bien les chaudières de locomotives que celles des génératrices électriques. On peut croire que ce jour n'est pas éloigné. Alors tout un vieux système, terriblement cher, de dépôts de combustible, de manutention, d'ateliers de réparation, de modes et moyens de production d'énergie et de marchandises, tout l'appareil moteur de l'économie enfin s'écroulera. Il y aura un édifice nouveau. Mais, je disais déjà, en 1947, une intermède énergétique se pose entre la naissance, la création de l'industrie atomique et ses réalisations finales dont vous essayez de vous brosser un tableau d'avenir. Il s'agit donc d'utiliser maintenant cet intermède, de s'en servir tant que nous aurons, tant que peut être encore possible, de l'utiliser pour le bien de l'humanité. En fait, cet intermède a été plutôt employé par un développement prodigieux des armements atomiques, des hommes d'État qui ont des responsabilités terriblement graves, ont pu annoncer qu'ils disposaient de bombes à triple effet, à enveloppes de cobalt, dont une quinzaine serait suffisante pour détruire, pour effacer la vie de tout un continent, homme et bien. C'est pourquoi devant ces menaces, ces dangers qu'on a qualifiés à un certain moment de guerre chaude ou de chantage ou de guerre froide, devant ces menaces qui s'aggravaient jour par jour, on arrive à cette conférence au sommet. Cette conférence au sommet donc, il se pose tout d'abord à l'ordre du jour le désarmement et le contrôle. Désarmement. Désarmement total, désarmement à 100%, l'URSS le propose avec conviction, il y trouve son intérêt et il y voit l'intérêt du monde. Les États-Unis sont d'accord pour un désarmement 100%, mais de toute évidence, ils n'y croient pas. L'Angleterre et la France semblent être disposées à accepter le 60, le 50, même le 40% du désarmement, pourvu qu'on arrive à un accord quelconque. Soyons optimistes. Soyons optimistes au-delà même de la raison. On réalise un accord à 100% du désarmement et 100% du contrôle. Feu de joie sur toute la terre, l'effet le plus frappant, si j'ose dire, du conflit est légalement éliminé. Mais la cause du conflit demeure. Si bien qu'avant même de réunir cette conférence, tout le monde est d'accord sur un point précis, que la compétition pacifique des économies est commencée et que celle sera menée de part et d'autre jusqu'à la victoire de l'un ou de l'autre. Or, cet euphémisme de compétition pacifique ne couvre que la réalité d'une guerre économique entre les deux mondes. Et cette guerre est celle de la productivité, c'est-à-dire est celle de l'emploi, toujours plus intense, toujours plus scientifique, toujours plus rationnel de l'énergie. C'est-à-dire que cette guerre économique est en réalité une guerre sociale en profondeur, à laquelle aucun peuple ni individu ne pourra rester étranger, car il ne peut y avoir conflit économique sans conflit social, pas plus qu'on ne peut pas se jeter à l'eau sans se mouiller. Mais alors, libérer du fardeau et l'armement, la guerre économique peut se déchaîner dans toute sa puissance. L'URSS considère à juste titre qu'elle part gagnante dans cette guerre économique, qui est la guerre des standings de vie. Et ce n'est là que l'enfance de l'art. Pour un pays totalitaire où l'organisation collective, collectiviste de la production, où l'abondance de matières premières, l'abondance d'hommes, de personnel et le développement scientifique permettent absolument de croire aux promesses des hommes d'État soviétiques, dans un délai de 10, de 12, de 15 ans, ils auront réalisé et peut-être dépassé le standing de vie américain. C'est ici que la question se pose, non seulement aux Soviets, mais se pose à tout le monde de savoir quelle peut être l'issue de cette victoire de la guerre économique par les Soviets. Vaincre la guerre économique, assurer un standing de vie du citoyen soviétique égal à celui du citoyen américain, ça veut dire mettre à la disposition des citoyens du Soviet autant de produits en qualité et en quantité suffisante pour ce qu'il y ait en Russie une égale faculté de choix, une égale liberté de choix que ce qu'il y a aux États-Unis. C'est élémentaire, c'est enfantin, n'est-ce pas? L'aboutissement ne peut être autre que celui-là. C'est-à-dire que le citoyen soviétique n'ira plus dans un grand magasin à choisir entre 3, 4 types de chaussures, entre 5, 6, 7, 8, 10 types de cravates, mais il se trouvera comme chez nous, comme les Américains, il aura à choisir entre 500, 600, 700 types de chaussures, entre 1000, 2000, 3000 types de cravates de toutes les couleurs, de toutes les qualités. Eh bien, c'est simple acte qui devra faire à ce moment-là le citoyen soviétique de choisir cette cravate. Il le fera librement, il devra le faire librement, il ne pourra le faire que librement, parce que la quantité même de marchandises et la variété de marchandises qui est posée, qui est mise devant lui, le met à la condition qu'il doit prononcer, qu'il doit faire ce choix. C'est normal, c'est son acte de vie, de consommateur. Il choisit, mais le moment où il choisit, il juge. Et qu'est-ce qu'il juge? Il juge la valeur de cette cravate, il juge la valeur de ce costume, il juge la valeur de cet objet, de cette automobile qu'il va acheter, qu'il choisira, n'est-ce pas? Parce que s'il doit avoir une standing de vie égale à celui de l'Américain, il choisira aussi sa voiture, n'est-ce pas? Et alors, au moment où il choisit, il formule un jugement de valeur. Et ce jugement de valeur, sur quoi porte-t-il? Mais il porte, évidemment, sur le travail qui a été nécessaire pour accomplir, pour produire cette marchandise, cette cravate, ces chaussures, cette automobile. Mais alors, quelle va être la situation, quelle va être la position, dirais-je mieux, du citoyen soviétique par rapport à la bureaucratie qui détermine, dans le gros plan, les quantités, les qualités de marchandises qui sont offertes aux consommateurs? Il vient se trouver exactement, ce consommateur soviétique, exactement dans la condition qui se trouve le consommateur américain, seulement que le consommateur américain a devant lui plusieurs producteurs qui sont en concurrence entre eux pour lui offrir l'objet le meilleur. Là, il y a un seul organisme, c'est une seule bureaucratie, laquelle détermine à la fois le prix de la marchandise et le salaire. Dans ces conditions, quelle peut être la liberté de choix? Quelle peut être la liberté du jugement de cet homme? Car enfin, la liberté du consommateur, c'est la liberté de l'homme, c'est là que pratiquement dans tous les actes de la vie quotidienne, de façon ce choix, dans ses jugements, s'exprime. Sa liberté, c'est là qu'elle réalise réellement cette liberté. Comment? Elle l'exprimera dans une société où le jugement de la valeur n'est plus libre. C'est là qu'intervient la force fondamentale de la doctrine de la valeur du travail. C'est là que s'ouvre une sorte de vide devant nous, c'est-à-dire devant l'organisation soviétique, devant cet immense, ce gigantesque mouvement du socialisme qui va vers la réalisation du communisme. Il se trouve devant le grand problème de la liberté, le grand problème du jugement. Quel est la valeur du travail? Quel est ce jugement pour déterminer la valeur du travail et de la marchandise qui peut donner le citoyen soviétique? Il n'y a pas de réponse que la loi, autre que la loi de Léontiev. La loi de Léontiev, que vous connaissez tous, l'État socialiste est maître de la valeur et l'utilise consciemment dans l'intérêt du socialisme. L'État est maître de la valeur. Dire que l'État est maître de la valeur, ça veut dire, dans un État totalitaire, ça veut dire que la bureaucratie est maître de la valeur. Et si la bureaucratie est maître de la valeur, il y a technocratie, il n'y a plus liberté de jugement, plus de liberté possible de l'homme, plus de possibilité de libération de l'homme. Tel, si vous l'examinez à fond, semble être le chemin, le point où s'arrête tragiquement l'évolution du socialisme au moment même où la victoire paraît à sa portée de la main des soviets par une victoire dans la guerre économique. Aux États-Unis, le problème se pose sous un autre angle, mais les conséquences de la guerre économique sont également effrayantes, sont peut-être à certains points de vue même plus effrayantes encore. Pour développer la guerre économique, évidemment, il n'y a que le développement des trusts, il n'y a que les concentrations industrielles, il n'y a que cette forme de collectivisation capitaliste, n'est-ce pas, devant laquelle à laquelle nous assistons en ce moment, surtout aux États-Unis. Face au développement des trusts d'un côté, à la concentration des trusts capitalistes d'un côté, vous avez la concentration syndicale de l'autre. L'objet de la controverse entre ces trusts qui organisent et exploitent le travail d'une part, entre l'organisation syndicale qui organise et défend le travail de l'autre, il y a le travail et il y a un inconnu qui reste dans la société moderne, Calès, la valeur de ce travail qui est l'objet de la controverse entre le trust capitaliste et le trust syndical. Sans connaissance de cette loi, on reste à la définition marxiste, on reste à la définition léniniste, il n'y a plus dans ce conflit que la loi de la force, il n'y a plus que la lutte de classe. Enfin, le conflit de l'acier qui vient de se conclure, il vous en donne la démonstration flagrante. Il ne s'agissait pas, pour les syndicalistes américains, de gagner quelques cents sur le salaire horaire, le problème était bien plus grave, il s'agissait d'intervenir directement dans la distribution du travail et dans l'organisation du travail en Amérique. En réalité, les résultats sont là, le conflit de l'acier s'est terminé avec une victoire syndicaliste totale. Ça veut dire que cette lutte de classe qui prend cette forme nouvelle à laquelle nous avons assisté en Amérique n'est qu'un commencement, mais que le principe d'un développement historique inexorable auquel nous allons assister par la suite, parce qu'il est bien certain que à la suite de la controverse des syndicats de l'acier, suivra naturellement les mêmes revendications, les mêmes problèmes viendront se poser pour le syndicat des transports, etc., etc. L'évolution ne peut pas être arrêtée. Dans ces conditions, pas de solution possible, pas de solution pacifique possible, pas moyen d'arrêter cette course vertigineuse vers vers un chaos inévitable, pas de solution possible s'il n'y a pas une définition de la valeur du travail. Et si encore une fois se pose, quelle est la valeur de ce travail qui est l'objet de cette controverse? N'ayant pas trouvé une solution, ni en URSS, ni aux États-Unis, à cette question fondamentale, la définition de la valeur du travail, les deux géants pensent de pouvoir résoudre ce problème à l'extérieur, alors qu'ils n'ont pas pu le résoudre eux-mêmes à l'intérieur. Et c'est ainsi que dans la conférence au sommet se pose le problème de l'aide aux pays sous-développés. Mais l'aide aux pays sous-développés, l'aide aux pays sous-développés veut dire fournir aux pays sous-développés de l'outillage, des crédits, le moyen enfin d'accroître sa productivité, d'accroître la valeur du travail du pays sous-développé, et donc accroître la production dans le but, évidemment, de faire des échanges. C'est-à-dire, on fournit du travail sous forme de marchandises ou de crédits au pays sous-développé, on attend de ce pays sous-développé qu'il utilise ça pour accroître sa productivité, la valeur de son propre travail, pour qu'il ait de la marchandise, c'est-à-dire du travail concrétisé dans sa production, et ça, dans le but de faire des échanges. Donc, c'est « je vous donne du travail, je vous donne la possibilité d'augmenter la valeur, la productivité de votre heure de travail. Vous allez augmenter la valeur de votre heure de travail, votre productivité, votre production, tout ça pour faire des échanges. Ces échanges sont toujours et seulement, en définitive, fondamentalement, socialement, économiquement et en réalité, ils ne sont que du travail. Quelle est la valeur de ce travail ? S'il n'est pas donné une réponse à cette question, la conférence au sommet ne peut aborder l'aide aux pays sous-développés que sous l'angle des transactions politiques. Et alors, ce n'est fait de la liberté des peuples sous-développés, et il est fini toute possibilité d'un accord réaliste, d'un accord social entre les deux parties. Mais entre ces deux géants, entre les États-Unis et l'Union soviétique, il y a représenté par l'Angleterre et la France à la conférence au sommet une Europe en travail qui s'engendre d'elle-même. Nous revendiquons d'avoir, depuis 1934, défendu l'idée de cette Europe et de l'avoir défendue d'après le principe que cette Europe ne peut être faite, ne peut être réalisée que par une union fondée sur le travail, sur la valeur du travail lui-même. Tel a paru être le concept d'ailleurs du général Marshall, le plan Marshall quand il est intervenu essentiellement, comme nous voulons intervenir aujourd'hui auprès des peuples sous-développés, il est intervenu avec une aide pour améliorer la productivité et la production. De là, on a essayé de développer le principe de la coopération avec l'Organisation économique coopérative européenne, qui avait pour but la libération des échanges. Pour libérer les échanges, on s'est trouvé devant le grand problème des salaires, des prix, de la valeur du travail. On a essayé de trouver un point d'appui dans l'Union européenne des paiements, et les paiements se rapportent tous à ces échanges de travail. Alors on a essayé d'organiser le marché commun, mais le marché commun, c'est encore des marchandises, ce sont encore les produits du travail. Et voici que, dernier mai de ces tentatives de construction, d'organisation de l'Europe, apparaît le comité de la productivité du travail. Cette qualité de la productivité, c'est celui qui, évidemment, pose plus que tout autre encore, pose le problème de la valeur du travail. Et alors, c'est là que nous nous retrouvons au cœur du problème tel qu'il avait été posé par le grand révolutionnaire, par Karl Marx, quand il disait, naturellement, une fois que nous aurons trouvé le sens véritable, mais caché, de l'expression valeur du travail, nous serons en mesure d'expliquer cette application irrationnelle et apparemment impossible de la valeur, de la même manière que nous sommes en mesure d'expliquer les mouvements des corps célestes, qu'ils soient visibles ou perçus seulement sous certaines formes, lorsque nous avons découvert leur mouvement réel. Si je comprends bien, Marx posait l'astronomie du travail sur le plan de l'astronomie céleste. En réalité, l'astronomie du travail s'explique d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup terre-à-terre. S'explique par le pouvoir d'achat social dont la clé est l'énergie. Je veux dire que la valeur sociale du travail est le pouvoir d'achat social du travail. La question est donc de savoir comment la valeur du travail se détermine librement et socialement par rapport au pouvoir d'achat. Je crois que toute la question est là. Pour aborder le problème, l'économie coopérative est partie du principe que pour déterminer la valeur du travail, il faut d'abord voir qu'est-ce que c'est dans sa réalité vivante, le travail lui-même. Or, le travail n'est qu'un composé, comme vous savez, de deux forces et rien que de ces deux forces. La force travail de l'homme, intellectuel ou physique, et la force travail des agents physiques, l'énergie. Il est impossible de déceler une autre, excusez-moi le terme, ingrédient quelconque dans ce travail en dehors de ces deux réalités, la force travail de l'homme et la force travail des agents physiques. Il est évident que ces deux forces peuvent être étudiées, mesurées, contrôlées avant, dans leur potentiel, mais seulement avant qu'ils se soient réunis ensemble dans l'acte de la production. Quand l'acte productif s'accomplit, quand la force au travail de l'homme s'unit d'une façon quelconque à l'énergie, ce n'est plus que le travail devient un tout unique, indissociable, et qui ne peut plus être mesuré. Alors que, vous prenez par exemple la force de travail de l'homme en France, vous pouvez la mesurer en force de travail simple, en unité humaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire en force, en chevaux, en kilowatts, comme vous voulez, un quart de kilowatt heure par jour, n'est-ce pas? Vous pouvez mesurer la force de travail de l'homme disponible. D'autre part, le potentiel de la force de travail des agents physiques, ce peut être soit le gisement de charbon, soit le potentiel hydroélectrique, et soit désormais le potentiel atomique, peut être également mesuré, de façon que vous avez aux origines, vous avez à la source de ces deux forces de travail qui peuvent être parfaitement
délimitées, séparées l'une de l'autre, pour pouvoir y bâtir dessus la construction de votre société. La recherche de la valeur du travail, vous ne pouvez la faire autrement qu'en séparant tout d'abord ces deux forces pour les analyser quantitativement l'une et l'autre. Quand vous avez la force de travail de l'homme, de la force de travail de l'homme individuel découle la propriété individuelle du producteur. La productivité individuelle, la propriété individuelle du producteur engendre, si j'ose dire, la rémunération. Cette rémunération va à fournir, la rémunération du travail humain va à fournir, va à coïncider dans le prix de la production. De l'autre part, vous avez la force de travail des agents physiques, qui appartient évidemment à tous les hommes, n'est-ce pas, votre potentiel hydroélectrique, votre potentiel atomique, tout ça appartient à l'humanité tout entière, donc c'est un patrimoine social. Ce patrimoine social du consommateur, vous le déterminez par un prix de l'énergie, avant même que cette énergie aille rejoindre l'acte de productif. Quand la rémunération et le prix de l'énergie vont se rejoindre dans le prix de la production, vous avez là le prix du travail. Prix du travail qui est aussi le prix du produit. Il va de soi que quand vous avez établi le principe, vous avez accepté le principe que la force de travail de l'homme appartient individuellement au producteur et que ça donne lieu à une rémunération, vous devez déterminer la valeur de cette rémunération et vous la déterminez par l'organisation même du travail, c'est-à-dire l'organisation professionnelle. Je soutiens que l'organisation professionnelle, c'est elle et elle seule qui doit déterminer le principe de la valeur de la rémunération, c'est-à-dire la valeur du travail, c'est-à-dire la valeur de la contribution de l'homme dans la production, dans l'ensemble de la production. D'autre part, si vous avez accepté que la force de travail des agents physiques est le patrimoine social du consommateur, ce qui me semble le plus évident, il s'en découle que ce patrimoine se réalise, s'exploite à travers un prix de l'énergie. Ce prix d'énergie va coïncider avec la rémunération dans le prix de la production et vous n'avez effectivement à l'établissement réel du prix de revient, vous n'avez en réalité que ces deux prix qui concourent ensemble et qui vous donnent le prix de la production. J'entends dire, n'est-ce pas, que dans le prix de la production, le prix des transports, etc., et toutes les autres frais sont toujours et uniquement des frais de service, des frais de dépenses, de rémunération de travail ou rémunération d'énergie. Alors, à ce moment-là, vous vous trouvez devant une construction qui est, disons, j'appellerais ça de dimension, cette dimension de l'organisation professionnelle qui découle de la force de travail de l'homme, et cette autre dimension que j'appellerais sécurité sociale dans le plus vaste sens du mot, et qui découle de cette don de la nature, qui sont que la force de travail des agents physiques, dont l'extension, de fur et à mesure que le progrès avance, est immense, il n'y a plus de limite. Alors cette deuxième dimension constitue évidemment, étant un patrimoine social, s'exploite en tant que sécurité sociale, et sécurité sociale, je veux dire, une sécurité sociale qui n'est pas seulement l'assurance vieillesse, qui n'est pas seulement les incidents du travail, mais la sécurité sociale dans le sens que toutes les dépenses sociales, tout ce qui assure la vie sociale de l'homme, tout ça revient évidemment à la charge de cette force naturelle qui appartient à tous les hommes ensemble. Ce n'est pas ce secteur-là, ce n'est pas le secteur force travail de l'homme, ce n'est pas le secteur que nous appelons abusivement simplement la production, ne passez pas l'organisation professionnelle qui doit supporter la charge de la société. C'est là C'est cette force qui intervient dans la production, dans le rendement de leur travail, c'est la valeur réelle de votre produit que vous avez, parce que un exemple très, très simple, c'est par exemple si vous prenez, vous mettez là au centre de votre production, vous prenez, un type de boulon qu'on fabriquait dans certains pays, qu'on peut fabriquer dans certains pays d'Afrique avec une journée de travail, n'est-ce pas? Et puis vous aurez, parce que vous n'avez pas d'intervention d'énergie des agents physiques qui vous transforment et qui augmentent le rendement de votre travail, ou bien alors vous avez de votre part, vous avez une production dans un pays très développé, où ce même boulon qui vous a demandé une heure de travail en Afrique, il vous demandera une fraction de seconde, c'est-à-dire vous aurez 50, 60, 100 000 boulons produits par un seul homme avec une seule machine. Et ceci dit, ces deux dimensions qui ont une apparence théoriquement rigide, ils ne le sont nullement. Ils fonctionnent comme les deux plateaux de la balance. Cette sécurité sociale que je répète comprend toutes les dépenses sociales, y compris les impôts, y compris les frais pour l'armée, y compris les frais de l'instruction publique, toutes ces dépenses qui sont des dépenses de l'État qui aujourd'hui se traduisent avec toutes les complications fiscales et qui sont une ressource pour faire payer à ce secteur-là ce que l'on perd. Il revient à ce secteur-là, parce que celui-là, il n'a d'autre fonction que celle de produire et d'avoir sa juste rémunération. Si là, il a eu sa juste rémunération, il n'y a aucune raison de taxer, de lui mettre un impôt sur sa juste rémunération. La juste rémunération, l'impôt est là, est inscrit dans les lois de la nature, c'est dans cette force qui intervient dans le travail, qui augmente la productivité, qui augmente la production, qui augmente la richesse. Alors c'est de là que je peux prélever, et que je dirais même, à fur et à mesure que le progrès avance, je peux prélever sans mesure. Or, ce qui est typique de cette idée fondamentale, c'est que quand vous faites ces deux dimensions ne sont pas rigides, comme pourrait paraître à première vue. Elles fonctionnent au contraire comme les deux plateaux d'une balance. Si le prix de l'énergie augmente, va incider sur le prix de la production. Alors, s'il va incider sur le prix de la production, il va diminuer le pouvoir d'achat du producteur. C'est-à-dire, la rémunération du producteur doit être augmentée proportionnellement. Inversement, si la force de travail de l'homme, si la rémunération professionnelle augmente, pour augmenter le pouvoir d'achat du producteur, il est évident que le pouvoir d'achat social que je dois retrouver de l'autre côté vient à diminuer. Donc il y a une balance continue. Si j'augmente l'un, je dois augmenter l'autre. Si je diminue l'un, je dois diminuer l'autre. C'est une balance générale, c'est une balance scientifique. Une balance scientifique que je la retrouve toujours dans le prix de la production, que la statistique peut me donner, avec un développement adéquat, peut me donner d'une façon assez nette, assez précise. Or, jusque-là, vous avez une sorte de... vous affrontez un système d'organisation professionnelle, vous abordez un système de sécurité sociale généralisé, grandiose, n'est-ce pas, qui peut vous faire un peu une impression un peu de merde, comme si nous allions un peu loin dans ce travail de l'humanité nouvelle qui va s'organiser sur ce ton de la nature, n'est-ce pas, et sur le développement de la force de travail de l'homme. Non, je ne le crois pas. Cette organisation professionnelle, elle existe. n'y a aucun pays qui n'a pas ses syndicats. Ils marchent plus ou moins bien, n'est-ce pas? Mais ils sont tous réduits dans leur fonction sociale, dans leur revendication des droits du travailleur, ils sont toujours réduits à une formule que je ne voudrais pas dire c'est la lutte de classe, n'est-ce pas? Mais enfin, le fond de la question est toujours, il ne peut plus y avoir un syndicat qui n'a pas son sens politique. Et s'il a son sens politique, il faut forcément ce sens politique, c'est une contradiction dans laquelle il se trouve entre celui, l'entrepreneur et le travailleur. Ici, le problème change. Et s'il y a une position de justice qui permet de reconstruire, d'examiner, d'adapter la question de l'organisation professionnelle et d'arriver au but suprême de l'organisation professionnelle, c'est-à-dire d'être elle-même à déterminer la valeur sociale du travail. Elle la détermine, non sans contrôle, parce que le contrôle est de l'autre côté. Mais c'est elle qui peut le déterminer de cette façon, et le déterminer librement. D'autre part, quand j'énonce une sécurité sociale qui remplacerait le percepteur,